Et j'ai le plaisir de recevoir maintenant Paul Burgan, que les auditeurs de CFM connaissent bien, puisque chaque lundi, il découvre un peu après 17h sa rubrique toponymique. Rubrique toponymique qui est issue à chaque fois des différents ouvrages que vous avez écrits. Paul, bonjour.
Oui, bonjour. Ben, effectivement, les émissions que j'ai faites jusqu'ici ont été prises pour les premières, c'est-à-dire pour à peu près 200, sur le dictionnaire du toponymie du Tarn-et-Garonne. Et la suite, je suis en train de la traiter sur la toponymie de Montauban. Mais bon, entre-temps, bien sûr, j'ai fait d'autres ouvrages, et en particulier deux qui viennent de sortir dans les semaines passées.
Alors, les noms de lieux de Mouillac, et puis les noms de lieux de Verlac-Tescou, que vous avez fait en collaboration avec André Lafont.
Oui, ben comme d'habitude, bon, je travaille souvent avec André Lafont. Alors, sur celui de Mouillac, je travaille tout seul, c'est pour ça qu'il n'y a pas son nom, mais enfin, habituellement, je travaille avec lui, oui. Bien sûr, surtout pour les travaux de recherche initiale.
Celui de Verlac-Tescou est sous-titré « Études phonétiques, historiques, étymologiques et sémantiques ». C'est oui. Tout ce travail-là que vous faites à chaque fois.
Voilà, ouais. À chaque fois, oui. Je l'avais déjà mis sur la couverture pour un toponymie de Montauban. Effectivement, il faut traiter tous ces sujets puisque c'est l'étude des noms. Et les noms, on les traite de toutes les manières, dans leur histoire, dans leur évolution phonétique, dans leur sens. Et par conséquent, on est obligé de regarder de tous les côtés.
Et alors, qu'est-ce que ça veut dire, regarder de tous les côtés? C'est regarder dans les livres ou c'est aussi... Ah est-ce que vous partez des fois à la rencontre des gens?
Le gros travail, c'est quand même dans les livres, effectivement, parce que on n'a pas d'enregistrement de tous ces noms-là avant le 20e siècle et même le 21e, pour parfois. Par conséquent, c'est dans les livres qu'on va trouver la majorité des informations, puisqu'on remonte souvent à 1000 ans en arrière. En revanche, on s'intéresse quand même à ce qui se dit encore maintenant. Et chaque fois, j'interroge les gens qui sont du village et qui ont gardé en mémoire la prononciation des noms tels qu'ils étaient auparavant, c'est-à-dire en occitan. Parce que la prononciation française qu'il y a maintenant est une prononciation qui est issue de l'écrit. Donc elle ne présente pas tellement d'intérêt pour l'histoire, puisque l'écrit, moi je l'ai depuis un millier d'années. Par contre, la prononciation occitane, celle-là peut avoir quelque intérêt. Et dans les deux cas, j'ai utilisé des gens qui savaient parler patois, comme on dit, et qui m'ont donné les formes encore utilisées aujourd'hui.
Les noms de lieux de Mouillac, comme les noms de lieux de Verlac-Tescou et tous les ouvrages que vous faites, sont exhaustifs?
Ils sont exhaustifs pour ce qui est encore en usage, bien sûr. Parce que dans les noms de lieux, surtout dans les micro-toponymes, il y a des noms qui apparaissent, disparaissent, sont remplacés par d'autres, sont modifiés. Là, j'ai pris la totalité des noms qui sont encore en usage sur les cadastres, puisque c'est là qu'on en voit le plus, et c'est le seul document officiel qui prenne en compte la totalité au moins que nous connaissons, des noms de lieux. Donc là, ce que nous avons, c'est la totalité des noms inscrits sur le cadastre.
Parce que ces noms de lieux ont pas un peu tendance à disparaître avec les numérotations des grandes avenues et les noms de rues qui changent, les chemins qui changent.
Alors, les rues, ça c'est un autre problème, parce que les rues, depuis un siècle et demi, ont changé de nature, si on fait le nom des rues plutôt. Auparavant, quand on désignait des rues ou des chemins, ça avait un côté pragmatique, c'est-à-dire qu'on indiquait de quel endroit ils partaient, quel endroit ils arrivaient, ou bien les gens qu'il y avait sur le parcours. Et depuis un siècle et demi, on s'est mis dans la tête qu'il valait mieux indiquer le nom de personnages célèbres, même s'ils n'ont aucun rapport avec la ville en question. Et c'est pour ça que tous les noms de rues sont donnés à des personnages divers, à des institutions, à des phénomènes historiques. Tout ça, ça n'existait pas autrefois. Et ça ne présente pas d'intérêt pour nous, parce que pour savoir qui est Jean Jaurès, on ne va pas venir chercher dans un bouquin de toponymie, on va aller chercher dans une encyclopédie, quoi. Donc là, nous traitons uniquement les termes, disons, traditionnels. Alors les rues, elles sont exclues par ce que je viens de dire. Quant aux chemins, les chemins, la plupart du temps, ils désignaient simplement les lieux d'où ils partaient, où ils arrivaient. Donc, ils sont traités automatiquement dans les noms de lieux.
Mais je me souviens, dans mon enfance, il y avait certaines adresses qui étaient la ferme à la croix pied de haut ou quelque chose comme ça, qui est devenu depuis 1495, 8260.
Alors, ça c'est la poste, en fait, qui a modifié pas mal le système de fonctionnement, parce que bon, il fallait bien donner à ces malheureux facteurs la possibilité de retrouver les noms rapidement, surtout s'ils n'étaient pas en permanence affectés au même secteur. Et du coup, on a normalisé tout ça, bien sûr. Et pour le cadastre aussi, on a normalisé avec des numéros, parce que c'est plus facile avec des numéros, d'autant plus que les parcelles ont chacune un numéro. Et par conséquent, les noms transparaissent encore sur le cadastre, sur les anciennes feuilles, mais ils sont beaucoup moins utilisés maintenant parce qu'on on traite essentiellement avec les numéros de parcelles. Mais ils figurent quand même, hein, ils figurent quand même. Et normalement, sur les registres de notaires, ils figurent aussi quand il y a des achats, des ventes, des échanges, etc.
Alors, Paul Burgan, pourquoi Mouillac?
Alors, Mouillac et Verliac, c'est la même raison. il se trouve que j'ai fait dans les deux villages une promenade toponymique il y a 2 ans. Et j'ai donc été invité par des associations locales. Et j'ai discuté après avec ces associations locales et qui ont souhaité ou qui ont été d'accord pour que je poursuive le travail. Alors, celle de Mouillac, c'est l'association qui s'appelle La Pique. Peut-être que vous connaissez, hein, qui se préoccupe surtout du patrimoine bâti en pierre sèche. Et celle de Verliac-Tescou a été IAUDE. HUIAUDE, qui se préoccupe elle aussi du patrimoine, mais beaucoup plus généralement, et qui en particulier est en train de restaurer l'église de la Vinouse. Alors ce sont ces deux associations avec lesquelles j'étais en contact qui m'ont, disons, conseillé, demandé ou bien qu'on accepté que je fasse ces toponymies. Et pour moi, c'est une nécessité parce que ça fait un relais sur place qui permet la vente. Et la diffusion d'informations, nous n'avons pas les moyens, nous, l'association Antonin Perbosque, de diffuser dans le monde entier. Donc si on a une association locale, c'est elle qui se charge de diffuser l'information et qui donc trouve la clientèle qui achètera cet ouvrage.
C'est qui la clientèle? Qui s'intéresse au lieu de
vie? Les gens du coin essentiellement. Alors j'ai aussi pas mal de gens qui, après être venus dans les promenades toponymiques, parce que là il y en a eu beaucoup quand même, hein, on a envie d'aller un peu plus loin, puisque dans le livre aidant, je vais un peu plus loin. Hein. C'est de l'écrit, c'est plus précis, c'est plus long.
Et des chercheurs en histoire, par exemple, des choses
alors,
comme
les
ça.
Chercheurs en histoire peuvent s'en servir, mais ceux qui s'en servent, par contre, beaucoup, ce sont les chercheurs en onomastique. C'est-à-dire que ces ouvrages que je fais sont destinés à un public local, donc qui s'intéresse à la signification des noms qu'il connaît, dont il se sert. Mais ils sont aussi destinés, c'est pour ça que je donne beaucoup de précisions, beaucoup de références, ils sont destinés aux savants, aux onomasticiens, qu'il y a un peu partout en France, voire dans le monde, et qui sont friands de ces documents parce que ça leur permet d'avoir accès à des données auxquels ils n'ont jamais accès, étant donné qu'ils travaillent dans les universités, très loin des lieux, et tout ce qui est local, ils ne le connaissent pas tellement, donc ça les intéresse d'avoir des documents fiables, hein, et sur lesquels ils pourront trouver des informations.
Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur Mouillac? Donner un nom de lieu, nous l'expliquer Je veux pas en prendre un au hasard, parce que vous ne devez pas les connaître par cœur. Lequel on prendrait?
Bon, je prends au hasard, là. Il y a un nom qui actuellement s'écrit Itardios. Mais Itardios, quand on regarde en arrière, si on peut dire, en 1684, c'était la Guittardie. Bon, après il a évolué vers l'Itardie, et puis après vers Itardie, et enfin vers Itardios. Mais évidemment, la forme que l'on doit prendre en compte, c'est pas la dernière. C'est pas celle qui a eu des malheurs pendant sa vie, mais c'est la première. Et la Guittardie, c'est la ferme d'un dénommé Guittard. Guittard étant un nom de famille bien connu, d'origine germanique. Alors voilà, donc j'explique à la fois historiquement l'évolution de la Guittardie jusqu'à Itardios, l'évolution phonétique de Guittardie par Litardie, par Itardie jusqu'à Itardios aussi, la signification en remontant jusqu'à Guittardie, la maison de Guittard, et montrer que le mot actuel n'a plus de signification puisqu'il a été altéré. Et c'est tout cet ensemble d'informations qui figure dans l'ouvrage.
Et si on prend Verliac-Tescou, il est bien plus épais, hein, celui de Verliac-Tescou.
Oui, parce qu'il y a deux fois plus de noms. Mais bon, l'épaisseur du livre est liée au nombre de noms qui sont examinés.
Foune de Noailles.
Foune de Noailles. Alors, Foune de Noailles, ça, bon, personne ne sera surpris parmi mes lecteurs que la plupart des noms soient d'origine occitane, bien sûr, puisqu'ils ont été créés avant que le français soit introduit dans nos régions. Donc la foune, c'est la forme occitane qui correspond à la fontaine. La fonte, c'est la fontem latine. Alors en français, le mot fond a disparu. On a pris plutôt le dérivé fontaine, mais c'est évidemment le même sens. Alors des fontaines, attention, à l'origine, les fontaines, c'était pas bâti avec des tours. Hein. C'était des sources captées, vaguement protégées pour que les gens puissent venir prendre l'eau. Et quant à Noailles, c'est un nom qui peut être un nom de famille, mais qui lui-même est d'origine, a pour origine un nom de lieu. Hein, c'est les Novalia, qui étaient des terres nouvellement défrichées, et qui a donné justement dans notre région un nom de famille assez fréquent. Il y a pas mal de Noailles ou Noailles dans la région qui sont issus de ce Novalia, nom de lieu. Voilà ce que j'explique là aussi pour la foune de Noailles, qui n'est pas très utilisée d'ailleurs, parce que les fontaines avaient toutes des noms, hein, jadis, il y en avait beaucoup, parce que c'était une grande richesse, mais elles avaient toutes des noms. Et puis, bon, petit à petit, l'eau courante étant arrivée dans les maisons, on s'est plus beaucoup intéressé aux fontaines. Alors, il y a que les propriétaires qui s'en servent quelquefois pour avoir de l'eau fraîche ou, bon, mais enfin, en gros, les fontaines ont été un peu délaissées parce qu'on n'avait plus besoin d'elles pour avoir l'eau à la maison.
Voilà, des choses qu'on peut apprendre comme ça, voilà. En lisant les noms de lieux de Verliac-Tescou. Verliac, je l'ai bien dit, hein, il y a un H.
Oui, mais ça, il faudrait expliquer longtemps, mais peu importe.
Et les noms de lieux de Mouillac, qui sont disponibles d'ores et déjà à la vente, hein, dans les bonnes librairies.
Oui, alors, ils sont disponibles. Hier, je les ai présentés déjà au Dimanche des bouquinistes. Je vais évidemment les proposer aux libraires dès ces jours-ci. Et ils peuvent être achetés déjà soit auprès des associations locales, hein, la PIC et IODE, soit à notre association, l'association Antonin Perbosque, avenue de Montèche, qui est l'éditeur officiellement.
Merci Paul Burgan.
Avec plaisir.
À bientôt.
Et à bientôt.
CFM à Moissac. Moissac. 90.7. 90.7.
L'association Les Rencontres des Métiers d'Art de Bruniquel vous invite les 3 et 4 décembre prochains à découvrir 17 artisans d'art. Dans les châteaux du village, de nombreux métiers d'art seront représentés, tels que la vannerie, le tissage, la céramique, la ferronnerie, la maroquinerie, la bijouterie, le travail du bois, le feutrage de la laine ou encore le travail du verre soufflé. Les Rencontres des Métiers d'Art de Bruniquel, les 3 et 4 décembre, de 10h à 19h au château de Bruniquel. Entrée libre et gratuite, restauration et vin chaud sur place, spectacle et animation gratuite tout le week-end.
Liquidation totale du stock chez Meubles Massifs à Faire, 38 rue Voltaire à Montauban. Tout doit disparaître. Liquidation totale sur l'ensemble du stock avant fermeture. En ce moment et jusqu'au 15 décembre, des affaires par centaines, des prix hallucinants et des réductions sur des prix déjà très bas. Liquidation totale de plus de 1000 meubles en tout genre, que du massif artisanal. Jusqu'au 15 décembre, ne manquez pas la liquidation totale de votre déstockeur Meubles Massifs à Faire. Ouvert du lundi après-midi au samedi soir, 9h30, 12h, 14h30, 19h.
On live en novembre, c'est post-hip-hop et poésie.
Un peu de silence et puis des idées folles. Elle me traite de bandit, me dit que je ne suis qu'un voyou. Tu as tiré le premier, tu as enlevé les anciens.
On live avec Monsieur Simil et Dakota, vendredi 25 à 19h en CFM. Bonjour, besoin d'entendre des messages positifs, des témoignages de personnes comme vous, optimistes, authentiques, créatives, sincères? Écoutez Onde Positive.
Donc l'espoir, il est en nous et on a juste besoin en fait d'une détermination, d'une volonté en nous pour pouvoir aller la chercher et que ça rallume ce feu qui est à l'intérieur de nous pour justement l'activer.
On ne peut pas parler de chance parce que là c'est quand même du travail.
Onde Positive, le mardi à 13h et en podcast sur cfmradio.fr.
CFM.
CFM.
En direct de la place nationale. 101.2.
L'esprit rock.
Et c'est dans le cadre, encore une fois, du festival Lettres d'automne que la librairie La Femme Renard vous propose une rencontre jeudi soir à 19h30. Rencontre intitulée « De la fabrication des fantômes », du titre du roman de Franck Manuel, auteur qui est avec nous par téléphone. Franck Manuel, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là avec nous pour nous préparer en quelque sorte à cette rencontre. Vous n'êtes pas tout seul, vous êtes avec Charles-Henri Lavielle sur l'autre ligne. Bonjour.
Bonjour.
Alors j'ai presque envie de poser la première question à Charles-Henri Lavielle. Pourquoi les éditions Anacarsis ont choisi de publier de la fabrication des fantômes? Racontez-nous cette rencontre.
Eh bien, c'est assez simple. En fait, on a d'abord publié, avant la fabrication des fantômes, un texte de Franck qui nous avait envoyé par la poste et qui nous a immédiatement séduit, qui s'appelait le Facteur Phi. Voilà, nous pensons que Franck est un écrivain à défendre et à soutenir. Et voilà. Et du coup, il nous a ensuite proposé un autre texte, 029 Marie, que nous avons aussi publié, et puis ce dernier, la fabrication des fantômes. Voilà, notre politique, c'est quand même de suivre les auteurs, d'autant qu'il correspond aussi beaucoup à l'esprit d'Anacarsis, et même peut-être pas uniquement dans la dimension fictionnelle, hein, sur cette idée d'explorer des genres différents, et à chaque fois, ce sont à la fois des formidables récits, et en même temps de formidables explorations de la littérature. Et c'est ce qui nous plaît beaucoup dans le travail de Franck Manuel.
Alors Franck Manuel, à vous, s'il vous plaît, de nous expliquer pourquoi vous avez choisi Anacarsis, finalement, pour l'édition de la fabrication des fantômes.
Ouais, un peu pour les mêmes raisons. Il y a une histoire de fidélité, une relation d'amitié qui s'est nouée déjà, à l'intérieur de la maison, entre nous. Et puis parce que, effectivement, le catalogue d'Anacarsis voilà, touche énormément de points qui m'intéressent moi par ailleurs. J'ai fait une thèse de lettres en littérature médiévale, il publie des textes anciens, les fictions qu'il publie sont des fictions qui sont à mon goût. Et donc voilà, toutes ces raisons font que c'était le lieu idéal pour moi où me trouver.
Alors parlons de cette fabrication des fantômes, de la fabrication des fantômes, c'est le titre exact hein, de ce roman. Est-ce qu'il faut le lire d'une certaine manière? Est-ce qu'il a un double sens, de la fabrication des fantômes?
Le titre?
Oui, le titre lui-même.
Le titre joue surtout sur les possibles fabrications de fantômes, en fait. C'est l'idée que les fantômes sont multiples, qu'il y a des fantômes dans le registre du fantastique, mais aussi des fantômes qui nous accompagnent tous les jours dans notre vie, les gens qu'on a perdus, les souvenirs, tout ce qui en fait est en nous, mais est un peu irréel ou virtuel. Et donc le roman cherche à décliner justement toutes ces manières que nous avons en permanence de fabriquer des fantômes, de façon voilà, diverse et variée.
Et donc on se tourne là aussi vers l'histoire en quelque sorte, encore une fois, puisque l'idée part d'un personnage qui a 100 ans, c'est ça, on fête son anniversaire et on va aller chercher dans son histoire en fait ce qui a cloché.
Oui, c'est ça, on va se promener dans sa mémoire en quelque sorte avec lui. Une mémoire un peu labyrinthique et au centre du labyrinthe, disons qu'il y a une sorte de gouffre dans ses souvenirs, une zone obscure qu'il n'arrive pas à percer, que son entourage n'arrive pas à percer. Et donc on va déplier tout ça doucement jusqu'à parvenir à ce gouffre noir et découvrir ce qui s'y cache.
Qu'est-ce qui vous a donné l'inspiration pour cette l'idée même là de ce vieil homme qui quand les personnes âgées sont quand on est vieux on est toujours très sympa finalement c'est souvent ça, mais qu'est-ce qui vous a donné l'idée justement de ce centenaire là qui aurait un passé sombre?
Alors, il y a plusieurs choses. La première chose, peut-être, c'est justement mon passé de facteur par rapport à mon premier, enfin, qui avait inspiré mon premier roman, où sur les tournées, comme j'étais facteur, je rencontrais beaucoup de personnes âgées qui étaient chez elles, et ça faisait longtemps que j'avais envie d'écrire sur la vieillesse. J'avais un peu écrit sur la vieillesse dans le facteur, mais pas beaucoup. Là, j'en fais un personnage central parce que, évidemment, c'est des personnes qui ont en eux plein d'histoires. Alors, c'est des livres, il suffit de les ouvrir. Et puis par ailleurs, il y avait une envie de jouer sur la chronologie et donc de mettre tous les temps d'une vie à plat en fait dans un seul instant présent et qu'on puisse naviguer non pas chronologiquement mais plus géographiquement dans le temps. Et je me disais qu'à 100 ans, on devait sûrement peut-être pas classer ses souvenirs dans l'ordre mais plutôt par centre d'intérêt, et donc ça dessinait une espèce de cartographie des souvenirs et c'était beaucoup plus intéressant en termes d'écriture.
Alors, tournons-nous maintenant vers la collaboration avec, avec l'éditeur Franck Manuel, Charles-Henri Lavielle. Comment se fait finalement cette collaboration? Est-ce qu'il y a des allers-retours qui se font sur le texte, Charles-Henri Lavielle?
Oui, alors, il y a quelques allers-retours qui peuvent se faire sur le texte. Après, l'écriture de Franck et puis la manière qu'il a de composer, de penser ses romans en avance fait que, en général, quand il se met à écrire, il a déjà composé, structuré son texte. Je pense que si on lui disséquait la cervelle, là, on en trouverait un bon paquet déjà prêt. Voilà. Donc, après, il s'agit juste quelquefois de discuter peut-être de la réorganisation de certains chapitres ou de cohérence parfois, mais en fait voilà, le travail de Franck quand il arrive, on en discute quelquefois plus en amont, même presque avant que le travail d'écriture ne commence, mais quand on reçoit le texte de Franck, généralement il est presque prêt à être publié. Je voulais revenir sur le roman parce qu'effectivement il y a cette question de la du souvenir, mais il y a surtout cette question, enfin, moi ce qui m'a fasciné dans ce texte-là, c'est que avec ce personnage d'homme qui a 100 ans et dont on va revivre l'existence, finalement il y a toute une question qui est liée à ce que c'est que la mémoire, ce qui existe dans la mémoire entre une forme de réalité, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on réinvente, et puis il vient d'inventer une figure monstrueuse, il invente une figure monstrueuse, je pense qu'on n'avait pas vu dans la littérature, et ça c'est un de nos autres auteurs qui nous le faisait remarquer, qu'on n'avait pas vu dans la littérature depuis très très longtemps, hein, montre à la Frankenstein, à la Dracula, et ça aussi c'est extraordinaire.
Alors je reviens à ma question initiale, Franck Manuel, sur la collaboration avec l'éditeur. Est-ce que c'est facile ou difficile de collaborer comme ça sur un texte?
Facile, ça n'a pas été au départ pour les premiers, parce qu'on est, je pense qu'on est, on est pétri de certitudes quand on commence, et on pense qu'on est le seul à maîtriser voilà, son texte et ses tenants et ses aboutissants. Au fil du temps, non, c'est devenu très facile, d'autant plus que oui, comme le dit Charles, on parle beaucoup du texte avant qu'il ne s'écrive vraiment. En général, je lui envoie, ça s'est fait comme ça pour la fabrication, j'ai envoyé à peu près les 10-20 premières pages écrites, et à partir de là on a discuté, et ensuite il m'a laissé pleinement libre de poursuivre. C'est juste que je pense qu'on a une sensibilité assez proche, et que du coup les conseils qu'il me donne me paraissent toujours très éclairants, donc ça marche plutôt bien. Donc c'est pas vraiment une difficulté, c'est plutôt un enrichissement mais pour l'instant, et puis ça permet d'avoir un lecteur continu, pas au fur et à mesure du travail, c'est plutôt pas mal.
Le 24 novembre à 19h30 à la librairie La Femme Renard, vous rencontrez tous les deux vos lecteurs, c'est un exercice que vous aimez faire?
Oui, c'est plutôt plaisant, ouais. C'est à moi que vous posez la question.
Ah ben, Franck Manuel allait en premier, oui.
Oui, d'accord. Alors oui, c'est. Enfin, moi, je trouve ça très plaisant parce que, dans l'écriture, il y a quand même un exercice qui est très solitaire. J'ai des amis qui sont musiciens, par exemple, et bien en concert, ils ont un retour immédiat de leur performance. Et c'est vrai que quand on écrit, on a peu d'écho, il y a des gens qu'on connaît qui nous lisent, mais globalement, on ne sait pas ce que pensent les lecteurs. Et c'est vrai que quand on peut un peu les toucher du doigt, modestement, enfin, en tout cas poliment, c'est toujours intéressant, enfin, en tout cas voilà, quand ils ont lu, d'avoir des retours. Et puis sinon, simplement discuter plus globalement sur la littérature avec des gens qui s'y intéressent, c'est toujours un bon moment. Ouais.
Charles-Henri Lavielle.
Oui, ben moi, alors du point de vue de l'éditeur, je trouve ça extrêmement intéressant parce que. Et après, c'est aussi la position qu'a pris Anna Karsis depuis le début. C'est-à-dire que on dit souvent, parce que j'ai monté cette maison d'édition avec quelqu'un qui s'appelle Franz Olivier, qu'on fait une édition de création, c'est-à-dire qu'on fait une édition de proposition. On ne suppute pas le goût du public. Je crois qu'on suppute le goût du public, finalement, c'est toujours parce qu'on pense que la personne à qui on s'adresse est plus bête que soi, et donc on a toujours tendance, voilà, puis on voit ce que ça donne d'un point de vue culturel aujourd'hui. Donc nous, on propose ce qu'on aime, on est une force de proposition. Et du coup, rencontrer un public, c'est aussi expliquer ce que c'est que notre catalogue, d'où il vient, comment il est composé, voilà, quels sont nos goûts et ceux qu'on aimerait partager.
Eh bien, rendez-vous est pris jeudi 24 novembre à 19h30 à la librairie La Femme Renard pour cette rencontre de la fabrication des fantômes avec Franck Manuel et Charles-Henri Lavielle des éditions Anacarsis. Merci d'avoir été avec nous pour en parler sur CFM Radio.
Merci.
CFM, CFM. À qui le tour? 17h30, 19h. CFM.
Anywhere you want to go, I follow.
Le dernier album de Flavia Coelho, c'est Sogno Real. Flavia Coelho présente Sogno Real dans PCV tous les jours.